Bonsoir à tous, bienvenue sur cette émission de critique de l'actualité du mois de janvier. Donc on se retrouve entre membres de guerre de classe justement pour traiter les questions qui sont survenues entre notre dernière émission de décembre et aujourd'hui. Vu qu'on est en direct, on va pouvoir prendre en compte les interrogations ou les questions que vous avez. Donc si vous avez des questions ou vraiment quelque chose qui vous taraude sur l'actualité des temps présents, n'hésitez pas à la poster dans le chat et puis on reviendra dessus soit dans le dialogue naturel de la discussion, soit à la fin si on n'a pas le temps. Et je pense que ça serait une bonne idée de commencer justement, puisqu'on a eu cette émission en décembre, notamment sur le mouvement de grève qui a eu lieu en France, par revenir justement sur la mobilisation qu'il y a eu et puis le rôle des syndicats qui a été central dans la gestion de cette crise-là. Donc, on peut revenir rapidement là-dessus ensemble, si vous voulez.
Pour commencer, si vous voulez, alors je ne sais pas si les téléspectateurs ont vu la phrase de Debord en introduction. On a choisi en introduction une phrase de Debord et on a choisi en conclusion une phrase de Marx. Il s'avère que la phrase de Debord et la phrase de Marx font partie d'un même dialogue unitaire, puisque c'est la mise en perspective de ce qui constitue finalement l'essence même de la dialectique de l'histoire, c'est la problématique du secret. La phrase de Debord positionne que le secret généralisé s'est emparé du monde dans la domination réalisée de la marchandise contemporaine et que le secret généralisé, c'est précisément ce qui rend impossible le discernement du vrai dans toute la dimension subversive que ce vrai est à même de produire. Et donc, le secret généralisé, c'est la dictature absolue de la démocratie achevée de la valeur d'échange, qui produit une catégorie qui est très significative et que Debord appelle le faux sans réplique, et que Marx, dans son fameux texte de 1842 sur la censure, a appelé la fermeture de l'histoire. Donc, on est aujourd'hui en un temps où le secret généralisé est le cœur de la dialectique des forces productives, et on est à ce cheminement où Orwell, Marx et Debord se retrouvent pour constater qu'il y a un ministère de la vérité officielle et que le faux s'est emparé de la totalité du monde. Pourquoi j'insiste sur cette introduction, et je vais en venir aux grèves, c'est que finalement, l'actualité n'a pas de scénario autonome. Certes, dans cette émission, nous faisons une critique radicale de l'actualité, mais nous ne faisons pas une critique radicale de l'actualité en partant empiriquement de l'actualité. La critique radicale est une critique dialectique qui refuse de se laisser emprisonner dans l'empirie qui est précisément le monde du faux. Donc, poser la question d'une réelle critique de l'actualité, c'est sortir précisément du scénario empirique de l'actualité dans lequel le médiatisme de la marchandise veut nous enfermer. Et poser la question de la grève, c'est poser la question du secret généralisé, c'est poser la question du faux sans réplique et c'est poser la question de la mystification. Il y a un mois, lors de notre précédente émission, nous avions parlé de la grève sabordée, de la marchandise et des impostures du Père Noël. Pourquoi ? Parce que nous savions bien que dans ce temps aliénatoire du secret généralisé, il y avait ce que la grève donne à voir dans son empirie. Ça va, il y a une grève contre le système des retraites, contre les réformes qui sont mises en marche, il y a des effervescences, et finalement, on va voir ce que cela va discerner. Et puis, d'un point de vue dialectique, on avait déjà positionné l'anticipation et la prévision. Autrement dit, on avait d'un point de vue méthodologique structuré l'alternative. En décembre, on avait posé l'opposition radicale entre véritable grève générale à vocation radicale, à vocation illimitée et à vocation de transgroissance, et on avait posé la grève de l'imposture à travers justement le cheminement additionnel que les syndicats avaient cadenassé pour que ça ne débouche surtout pas sur une explosion universelle d'anticorporatisme, mais pour que ça demeure précisément totalement cristallisé dans des enclosures, dans des corporatismes et dans des cloisons de métiers particuliers. Et ce que l'on a vu, c'est qu'au fur et à mesure que la grève se développait, les chiens de garde syndicaux cadenassaient pour que précisément la RATP reste enfermée à la RATP, la SNCF reste enfermée à la SNCF, les infirmiers et les soignants restent enfermés à l'hôpital. Certes, on avait des AG, des assemblées générales factices de recomposition chimérique où on rencontrait tout le monde, mais où on rencontrait tout le monde pour surtout empêcher que ce tout le monde s'unifie en un vrai tous ensemble. Vous savez, le slogan syndical du cul-de-sac réformiste, tous ensemble, mais c'est toujours tous ensemble séparément. C'est jamais tous ensemble unitairement pour s'affronter à l'État et pour s'affronter précisément au projet du patronat. Et donc, on a vu à travers nous les contacts que nous avions avec les Gilets jaunes, à travers les gens de la RATP, à travers les gens de la SNCF, que finalement, ce mouvement était d'emblée saboté par les structures syndicales. Donc, le secret généralisé, c'est que effectivement, tout est faux sur tous les sujets, que ce soit les grandes problématiques historiques, que ce soit les problèmes climatologiques, que ce soit la réalité de l'imposture démocratique, et tout est faux dans la réalité de cette grève. C'est-à-dire que cette grève, du début jusqu'à la fin, a été une opération de la syndicratie étatique en collaboration totale avec le pouvoir d'État pour écraser un mouvement dans l'épuisement, dans la fatigue et dans l'essoufflement. Et on en arrive aujourd'hui à un mouvement qui a été totalement éradiqué dans sa capacité d'offensive. Et donc, de ce point de vue-là, le système donne l'apparence d'avoir gagné. Mais il donne l'apparence d'avoir gagné parce que je rappelle ce que nous mettions dans notre dernier tract, sans nul doute, pour que le surgissement révolutionnaire puisse apparaître, il est absolument nécessaire que tous les ouvrages de la contre-révolution aient terminé leur torpillage. Donc, de la même manière, pour que les Gilets jaunes renaissent, par-delà tous les torpillages réformistes qui les ont enfoncés, il fallait que ce torpillage aille jusqu'au bout. Et de la même manière, toutes ces grèves contre le système des retraites qui, en soubassement, signalent la colère prolétarienne qui remonte, avaient peut-être pour nécessité première d'être torpillées pour que l'imposture syndicale puisse montrer toute son ampleur et tout son déploiement pour qu'il y ait un deuxième temps. Et nous rentrons justement en 2020 dans ce que nous attendons comme deuxième temps des Gilets jaunes et comme deuxième temps du prolétariat. Mais il ne peut y avoir un deuxième temps de radicalité quand le premier temps de la mystification syndicale et réformiste a fini d'épuiser toute la quintessence de son imposture. Donc nous entrons dans un deuxième temps et il faut l'analyser non pas empiriquement, mais dialectiquement, en se souvenant toujours que la vérité de la dialectique des forces productives s'inscrit toujours en négatif de cette surface des choses dans laquelle justement la démocratie de la valeur d'échange veut nous enfermer pour que la question subversive ne soit jamais posée.
Bon, justement, j'aurais une question pour rebondir. La surface des choses nous dit que le mouvement s'essouffle. Alors vous qui avez des contacts, qui êtes peut-être un peu plus... auprès de la situation, vous pouvez confirmer ça, qu'au niveau de la grève, c'est mort ou presque mort ou en voie d'apaisement?
Alors, si vous voulez, il y a l'apparence syndicale, il y a les appareillages de contrôle qui mobilisent de moins en moins. J'avais la semaine dernière un contact avec un conducteur RATP qui s'était affronté dans son dépôt à des jusqu'au-boutistes gauchistes, et il s'était affronté à eux en leur disant « Mais votre jusqu'au-boutisme est toujours un cul-de-sac réformiste. Le gauchisme, c'est le réformisme extrême du capital. À chaque mouvement où les bureaucraties syndicales de la gauche classique nous emmène vers le cimetière, vous vous agitez en disant « il faut aller plus loin dans la radicalité du cimetière ». Mais vous êtes des imposteurs. Et ce chauffeur RATP disait « mais moi je suis pour la grève radicale, Et c'est précisément parce que je suis pour la grève radicale que j'accepte pas de paumer jour après jour une rémunération de survie pour rien. Je suis prêt à mettre ma vie en mouvement, dans un mouvement de lutte, dans un mouvement de radicalité, mais là, je participe à une messe syndicale qui m'a condamné à mort depuis le début. Donc moi, je n'accepte pas cet embrigadement d'imposture. Donc, il y a des gens qui ont refusé de faire grève parce que c'est des jaunes. On a même vu qu'à la SNCF, ils étaient payés. Mais il y a des gens qui ont refusé de faire grève par radicalité parce qu'ils ont considéré que les appareils les conduisaient au cimetière. Et il y a ceux qui ont fait grève en sachant que ça conduisait à l'impasse, en essayant de déborder, en essayant de faire surgir autre chose dans une transcroissance qui n'est pas venue. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les syndicats sont les appareils de police du capital dans les usines et qu'ils ont pour fonction d'écraser la lutte. Mais la lutte n'a pas été simplement une défaite du prolétariat dans sa lutte contre l'État parce qu'elle a été écrasée par les syndicats. Il y a une implication réciproque. La puissance des syndicats pour écraser une lutte, elle est proportionnelle à la radicalité du mouvement. C'est-à-dire que c'est parce que le mouvement n'a pas atteint un seuil historique de radicalité que la police syndicale a pu l'enfermer. De la même manière que les Gilets jaunes ne sont pas tombés dans le piège des grandes manifestations du samedi, cadenassées par le capitalisme vert, écolo, bobo, immigré, féministe, par une manipulation, par une désolation, par un hasard. C'est parce que dans la radicalité du mouvement Gilets jaunes, il y avait encore une incomplétude. C'est l'incomplétude du mouvement des Gilets jaunes qui a permis au réformisme de l'étouffer. C'est l'incomplétude de la lutte radicale de décembre qui a permis aux syndicats de l'étouffer. C'est pas le démiurge réformiste de gauche qui étouffe la lutte. C'est parce que la lutte ne va pas assez loin dans ses contradictions sociales qu'elle accepte l'étouffement. C'est le réformisme du syndicalisme empêche le surgissement révolutionnaire, parce que le temps n'est pas au surgissement révolutionnaire. Les syndicats ne sont, dans leur force, que l'effet d'une dialectique historique qui fait qu'à un moment, le mouvement des Gilets jaunes ne pouvait que refluer, et aujourd'hui, le mouvement de grève ne peut que refluer. Mais ça, c'est un temps donné. Nous ne sommes pas des superficialistes empiriques. J'ai des gens qui me disent « Oh là là, c'est atroce, le capital a digéré les Gilets jaunes, le capital a écrasé la lutte ». Oui. Ça, c'est la surface des choses en un temps donné. Mais nous qui faisons une analyse radicale, une analyse critique des profondeurs, nous savons que la baisse du taux de profit, les contradictions de classe entre le prolétariat et le capital, c'est ça qui fait l'histoire dans son devenir. Donc, la phase actuelle n'est qu'une phase. Il y aura d'autres phases. Et les autres phases seront le résultat de l'auto-négation de cette première phase. Donc, comprenons bien le reflux des Gilets jaunes, comprenons bien le reflux de cette grève que nous avions prévue quand nous avons dit il y a deux solutions, où c'est vraiment une grève généralisée qui fait péter les enclosures du corporatisme, ou au contraire c'est le corporatisme qui l'étouffe et qui la tue. Donc tout ça s'exprime très bien dans la dialectique des contradictions de l'histoire. Donc tout ce qui se passe est normal, tant pour les Gilets jaunes que pour la grève que l'on a connue en décembre. Ce qui est intéressant, c'est comment le reflux Gilets jaunes et le reflux de cette grève va opérer un rebond dialectique à partir de la crise qui va s'intensifier et se généraliser en 2020. Autrement dit, le dernier mot n'est jamais donné. Nous sommes dans une phase de reflux, mais le reflux, on n'est pas des Kantiens. Dans la dialectique telle qu'elle est posée par Hegel et par Marx, nous savons qu'il y a l'auto-devenir et l'auto-transcroissance. Donc, le reflux des Gilets jaunes et le reflux de cette grève, c'est un moment donné, mais qui prépare des affrontements radicaux dans le temps qui vient. Parce que si le mouvement a été cadenassé, la colère est toujours là. Et la colère qui est toujours là va se réveiller beaucoup plus fort. C'est ce que dit Marx par rapport à juin 48. Une colère qui est écrasée dans un premier temps ou qui est enfermée dans un premier temps, elle ressurgit toujours de manière plus intensive et de manière radicale à mesure que la crise, précisément, sous-tend son ressurgissement.
Et pour arriver à un affrontement du prolétariat avec l'État, on doit forcément passer par une grève généralisée, radicale. C'est un passage obligé.
Ben, c'est qu'il ne faut pas fétichiser la grève générale, la grève sauvage, mais l'arrêt de la production comme moment où le prolétariat paralyse la structure de production de la valeur d'échange est un moment décisif. Mais la grève généralisée en tant que telle, ça n'est que le premier temps d'un mouvement par lequel le prolétariat décide de prendre le pouvoir pour abolir le pouvoir, d'attaquer l'État pour abolir l'État. C'est un premier temps, c'est un premier mouvement, mais ça n'a de sens que dans une dynamique de communisation et de radicalisation. On a toute une série de courants ouvriers néo-proudhonistes, soréliens, paralibertaires, qui avaient fétichisé la grève générale. Mais la grève générale comme occupation d'un territoire, ça ne donne rien. La grève générale doit être une transformation offensive du territoire vers l'abolition de l'argent et vers l'abolition de l'État. Si la grève générale, c'est pour gérer le territoire, on sombre dans le réformisme libertaire et gauchiste qui n'a jamais été autre chose qu'une réorganisation du capital. Donc la grève générale, en tant que grève de transformation vers la communisation radicale. Mais ça, ça présuppose que la crise actuelle, qui n'est encore qu'une crise limitée de la domination réelle, devienne la crise réelle de la domination totalement réalisée du capital, devenue impossible à sa propre reproduction.
Et on a un parallèle intéressant à faire aussi par rapport à ce qui s'est passé à la nuit de la Saint-Sylvestre. La nuit de la Saint-Sylvestre, on a eu énormément de voitures brûlées, il y a eu plus de 1500 voitures brûlées, et pas un tiers de LBD, et alors que des pompiers ont monté qu'à Yassi à Strasbourg, par exemple. Et on voit une vraie opposition, justement, entre le traitement qui est fait aux gilets jaunes radicaux, sur qui on va canarder, justement, qu'on va canarder à coup de LBD, et la racaille immigrée qui est complètement valorisée, justement, par la racaille bio. Et on voit bien, du coup, justement, comment le pouvoir se valorise complètement cette marchandise immigrée et il y a peur de cette radicalité du prolétariat européen des gilets jaunes.
Alors là, on retombe sur le fameux texte de 1872 de la question du logement et on retombe sur la première section du Capital, le fétichisme de la marchandise et son secret, qui nous renvoie au septième sur effectivement l'armée de réserve. Le territoire dit le territoire de la lutte des classes. La géographie territoriale de l'urbanistique capitaliste définit des séquences territoriales qui positionnent le devenir de la lutte de classes. Aujourd'hui, on l'avait dit déjà dans nos prochaines émissions, donc on va pas le redévelopper, mais on va le resynthétiser. Il y a aujourd'hui une lutte de classes qui est territorialisée dans une géographie de la redéfinition urbaine. Moi, j'ai connu un Paris prolétarien dans des quartiers où il y avait effectivement une masse considérable d'ouvriers, que ce soit la rue Mouffetard, le 19e, le 20e. J'ai connu un Aubervilliers ouvrier de lutte de classe qui n'a rien à voir avec le Aubervilliers immigré contemporain totalement assujetti à la démocratie du capital. Donc, on a réellement aujourd'hui une France périphérique. Et tout le prolétariat subversif qui a effectivement fait jaillir la dynamique des Gilets jaunes est relégué en tant que sans réserve de la réalité capitalistique achevée dans ces territoires-là. On n'a plus de prolétariat à Bordeaux, on n'a plus de prolétariat à Marseille, à Paris. Les métropoles sont devenues les métropoles privilégiées de la mondialisation, avec la classe capitaliste et sa clientèle boboïsée, et à la périphérie, dans la métropole, on a tous les quartiers immigrés privilégiés par rapport au prolétariat qui lui a été expulsé de toutes ces zones. Et il faut toujours rappeler, redire et redire que l'armée de réserve immigrée des quartiers, alors on appelle ça les quartiers populaires, mais je veux dire que les quartiers populaires d'Aubervilliers ou de Saint-Denis, ce sont des quartiers immigrés, ce sont des quartiers clientélisés. Aujourd'hui, vous avez les municipales qui sont mises en mouvement comme restructuration capitaliste du temps politique contemporain. On assiste dans toutes ces zones qui, il y a 30 ans, étaient des zones prolétariennes où la radicalité ouvrière pouvait surgir, mais où elle a été effectivement expulsée à la périphérie, à une recomposition où il y a tout un islamisme municipal, mais qui n'est pas pratiqué que par la France insoumise. Il est pratiqué par le MoDem, il est pratiqué par la République en marche, il est pratiqué par tous les partis. Quand vous avez effectivement dans des régions comme Aubervilliers et Saint-Denis toute une clientèle potentielle municipale à travers des associations, à travers des subventions, à travers tout un quadrillage de l'espace, on a aujourd'hui des enclaves d'origine immigrée, qui ne font pas sécession avec les républiques, comme on nous le dit. Parce que vous avez toute une série d'écoles sociales, géographiques ou politiques droitistes qui vous disent « mais c'est horrible, ces quartiers immigrés font sécession avec la République ». Ils font pas sécession avec la République en tant que la République est la marchandise. Ils sont totalement intégrés à la marchandise républicaine, à travers l'économie souterraine, l'économie officielle, les subventions, les associations, toute une vie municipale organisée, ils sont en plein dans la diversité organique de la population nouvelle du capitalisme, de la démocratie réalisée. Et les racailles du haut, comme vous le disiez tout à l'heure, ont besoin des racailles du bas. Il y a donc deux économies dans ces quartiers-là. Il y a une économie de surface qui est privilégié par rapport aux zones gilets jaunes, puis il y a toute l'économie souterraine. J'avais une correspondante la semaine dernière qui me disait la Castellane, qui est une cité immigrée de Marseille, on estime que le trafic de la daube, c'est 100 000 euros par jour. Bon, ça, c'est la Castellane. Mais je veux dire que entre l'économie souterraine, entre les subventions de la ville, on a une population immigrée qui est là et qui est considérée par le capital comme une population clientélisée vitale parce qu'elle est contre-révolutionnaire. À Aubervilliers, il y a 40 ans, on pouvait distribuer un tract sur l'abolition du salariat, il avait un contenu, il avait une substance, il était en quelque sorte en situation de pouvoir être compris. Aujourd'hui, si vous distribuez un tract sur l'abolition du salariat à Saint-Denis ou à Aubervilliers, c'est un autre temps, c'est une autre temporalité, c'est un autre monde. Et il faut toujours se rappeler que s'il y a effectivement dans le prolongement de cette fameuse section 7, chapitre 25 du Capital, une main-d'œuvre immigrée de réserve de plus en plus importante, de plus en plus organisée, on ne peut la comprendre que du point de vue de la lutte de classe. Celui qui vous parle de l'immigration sans vous parler de la lutte de classe, c'est une imposture. Celui qui vous parle de la lutte de classe sans vous parler de l'immigration, c'est une autre imposture. On voit là aujourd'hui, à travers la lutte des Gilets jaunes et à travers les grèves de décembre, qu'il y a un enjeu de lutte de classe et que cet enjeu de lutte de classe, il positionne dans la répartition territoriale des populations une répartition de la lutte de classe. Il y a des zones protégées et il y a des zones qui ne sont pas protégées. Quand à Narbonne, les prolos périphériques attaquent et brûle un lieu d'autoroute, on a des condamnations à prison ferme. Quand sur des ronds-points à côté, on avait des attaques au LBD et qu'on avait effectivement des gens qui étaient éborgnés, des gens qui étaient mutilés, on voit où la police frappe de manière massive. Et votre exemple, il est incroyablement caractéristique. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, des abrutis du capital qui sont incapables de lire un texte de radicalité, pour qui abolition du salariat ne veut rien dire, pour qui abolition de l'État ne veut rien dire, qui vivent dans le trafic et qui défendent un territoire de trafic, brûlent pratiquement 2000 bagnoles, il n'y a pas un tir de LBD, il n'y a pas une interpellation. Donc là, on a ce que tout à l'heure nous disions dans le secret généralisé, dans le faux sans réplique, on a la réalité territoriale mise en perspective dialectique. Les gilets jaunes, c'est la lutte de classe radicale. C'est la lutte de classe radicale qui doit être brisée. les luttes de décembre, c'est un potentiel de lutte de classe radicale qui devait être écrasé. Mais les banlieues, c'est où l'immigré sérieux, travailleur, qui veut réussir et qui ne posera donc aucun problème, parce qu'il est sérieux, il bosse bien, il est donc intégré dans le dispositif de l'ubérisation de la métropole capitaliste, et puis il y a à côté l'immigré de l'économie souterraine et du trafic. Mais qu'il veuille bien travailler dans la précarisation, de toute manière, ils veulent l'accepter, puisque par rapport au bled, c'est un Eldorado. Je veux dire que la situation salariale la plus misérable pour quelqu'un qui arrive d'Algérie ou du Maroc, c'est sans commune mesure avec ce qu'il quitte. Donc il devient un privilégié simplement par la transplantation, c'est ce que montre Marx. Donc il va se tenir. Quant à celui qui est dans le trafic et le racaillisme en complicité avec l'appareil d'État, il n'est pas non plus subversif. Donc, si vous voulez, l'État ne va pas mitrailler les banlieues. Donc, il n'y a pas eu de tir de LBD dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Imaginons maintenant que dans les luttes de classe radicales que l'on a connues, il y ait eu 1000 voitures brûlées dans une manif par les Gilets jaunes. Et on aurait fait tirer. Imaginons qu'au moment des grèves de décembre, une crise de folie se soit emparée d'un dépôt RATP SNCF et que, avec clé à molette et boulon, les prolos de la SNCF et de la RATP aient attaqué des quartiers privilégiés. Non, par contre, dans les quartiers racailleux, on peut brûler des voitures de prolos qui, à côté, deviennent effectivement une gigantesque scène cinématographique de la recomposition capitaliste. Donc, si vous voulez, le truc était très clair. La lutte de classe a montré d'une manière extrêmement claire que les banlieues immigrées sont un vivier de reproduction capitaliste contre-révolutionnaire. Il n'y a pas de radicalité possible dans ces territoires-là. Et d'ailleurs, j'ai des contacts, je le dis souvent, j'ai des contacts de gens qui sont originaires d'une provenance immigrée, qui ont découvert la critique radicale et qui ont aboli en eux cette temporalité de provenance et qui, s'ils rejoignaient les Gilets jaunes ou s'ils rejoignaient la radicalité des grèves de décembre, le faisaient dans une contestation radicale de la temporalité fermée de leur provenance en faisant une critique radicale du lieu historique d'où ils venaient. Et ils se sentaient communard européen. Parce que se sentir communard européen n'est pas une grille de lecture identitaire ou ethnique. Être communard européen, c'est une grille de lecture sociale insurrectionnelle. Et quand on dit gaulois réfractaire, on entend par là ce dont nous parlions tout à l'heure quand on parle de la nouvelle Gazette rhénane, lorsque Marx et Engels disent que la France, cette gauloiserie réfractaire, est le sémaphore de la radicalité mondiale universelle. Le prolétariat français, dit Marx, montre la voie au prolétariat européen, et le prolétariat européen montre la voie au prolétariat mondial. Et le manifeste communiste, il est né en Europe, il n'est pas né ailleurs, parce que compte tenu de toutes les luttes de classe qui ont surgi dans le temps paysan puis dans le temps ouvrier, toute la critique radicale contre l'État et contre l'argent, en positionnement affiné, pratique et théorique, est née là. Donc, il faut bien comprendre là qu'on a un territoire qui est clair et qui est net, les banlieues immigrées, on retrouve juin 48 sur le lumpen prolétariat, la racaille, le trafic, l'armée de réserve immigrée, ce sont des lieux contre-révolutionnaires. Et demain, quand il y aura le grand affrontement subversif entre le prolétariat et la classe capitaliste, de la même manière que la classe capitaliste en 1848 s'était servie des gardes mobiles pour écraser le prolétariat, elle se servira de ses clientèles immigrées pour effectivement faire tampon à la lutte de classe prolétarienne.
Alors, une question qui est du chat qui est un peu en rapport à ça. Comment transmettre la conscience radicale à une temporalité davantage fermée?
Alors, le problème, si vous voulez, c'est très intéressant, c'est que on l'a vu au moment des Gilets jaunes et on l'a vu dans les rencontres qu'on a faites avec des Gilets jaunes radicalisés. On a rencontré des gilets jaunes du 91, du 94, du 77, où nous avions des camarades d'origine marocaine, d'origine algérienne, mais qui avaient aboli cette provenance aliénatoire. Vous avez aujourd'hui en Seine-Saint-Denis des gens qui ont la nationalité algérienne, qui sont des héritiers de familles FLN, anti-françaises, qui ont vécu en Algérie pendant des années et qui viennent en France, faire carrière. C'est sûr que ces populations-là qui viennent chercher quelque part un statut qu'ils n'auront jamais là-bas, si vous voulez, c'est un peu comme Bouteflika. Bouteflika crachait sur la France en permanence, mais dès qu'il avait effectivement une hémorroïde, il venait en hôpitaux français. Bon, vous avez des tas de gens qui ont une fierté d'outre-Méditerranée, mais qui ne veulent surtout pas vivre là-bas. Ils sont là, ils font carrière, on en retrouve même dans des conseils municipaux. Ces gens-là, ils sont déjà dans un instinct de classe qui les met en situation de reproduction capitaliste. Donc, ils sont contre-révolutionnaires. Mais vous avez dans les jeunes générations des hommes et des femmes issus du Maghreb qui découvrent la temporalité ouverte. Ils découvrent Marx, ils découvrent Rosa Luxembourg, ils découvrent que tout ce qu'on leur a raconté sur la colonisation et la décolonisation est un mensonge. C'est un mensonge qui permet à la classe qui a pris le pouvoir là-bas d'établir la reproduction de son mensonge, et c'est un mensonge qui permet à la classe capitaliste ici, qui est complice de cette classe capitaliste là-bas, d'empêcher qu'il y ait des véritables jonctions radicales. Donc, plus le temps passe, plus vous avez des jeunes hommes et des jeunes femmes de 20, 25 ou 30 ans, d'origine marocain, algérien, qui se posent des questions non plus en tant que marocain ou algérien, mais en tant qu'humain, et qui découvrent la radicalité, et qui, au moment des gilets jaunes ou au moment des grèves, se disent « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? On veut nous enfermer dans une temporalité immobile, complètement débile, à travers l'islam, à travers l'indigénat, à travers une histoire qui n'a jamais existé. Mais nous sommes des êtres humains, et la Gemeinwesen nous parle. Nous aussi, l'émancipation humaine universelle, ça nous touche. » Donc, on verra de plus en plus, malgré le cadenassage de ces quartiers. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Les élections municipales, c'est un cadenassage de ces quartiers. Il faut régenter ces quartiers à travers la loi du trafic racailleux et à travers la loi des associations musulmanes. Il faut que ces quartiers soient intégrés à la république de la consommation marchande. Alors on peut les intégrer par le servilisme coranique, on peut les intégrer par l'économie souterraine. On va donc les intégrer par tous ces trucs-là. Donc, le trafic des cités, il est programmé par l'appareil d'État. L'islamisation des cités, elle est programmée par l'appareil d'État pour que tout ça constitue des enclaves réactionnaires. Il faut que les quartiers immigrés constituent des enclaves réactionnaires où la temporalité immobile de la consommation marchande et de la domestication stérile empêche la pensée radicale. Mais dans ces quartiers, il y a des gens qui bougent, qui prennent le bus, qui découvrent une librairie, qui de temps en temps vont sur Internet et ne vont pas simplement sur du rituel de soumission. Donc, on a des tas de gens qui, petit à petit, invalident eux-mêmes leur temporalité fermée parce qu'ils rencontrent la temporalité ouverte. Et si le communisme, dans sa radicalité intrinsèque, dans sa radicalité historique, est bien né dans sa forme théorique la plus affinée en Europe en 1848, il s'adresse à tous les humains de la Terre, à tous les prolétaires de la Terre, et de la même manière que nous appelons nos amis juifs à abolir l'aliénation judaïque, nous appelons nos camarades d'origine musulmane à abolir l'aliénation musulmane, nous appelons nos camarades racailleux du trafic à abolir l'aliénation du trafic. Nous appelons nos camarades des cités dans la servilité d'un salariat soumis à abolir cela. Donc, nous appelons l'humanité tout entière à s'ouvrir à la critique quel que soit son enfermement, quelle que soit sa provenance, l'émancipation du prolétariat sera l'œuvre du prolétariat lui-même contre tous les partis, contre tous les mensonges, et nous appelons tous les êtres humains qui viennent de territoires à l'enfermement reproduit à casser la reproduction de cet enfermement, et d'ailleurs, à guerre de classe, nous avons des camarades qui viennent de temporalités fermées, mais qui ont décidé d'abolir la temporalité fermée pour trouver le désir ouvert, pour trouver la jubilation de la radicalité. Le communisme est un plan de vie pour l'espèce et il abolira toutes les temporalités. Et demain, j'espère bien que contre les projets du capital, contre la dictature territoriale de la contre-révolution, de plus en plus d'hommes et de femmes de ces quartiers enfermés où on veut reproduire la domestication quitteront ces territoires pour nous rejoindre.
Du coup, quelque part, ça en revient à la critique qu'on peut faire du chéfisme ou de l'avant-gardisme aussi, puisque effectivement, l'ouverture de la conscience, elle vient de la conscience du prolétariat, vient du prolétariat lui-même et non pas du tout d'un groupuscule qui serait en avant et qui viendrait lui dogmatiquement lui donner les réponses.
L'automouvement de la conscience est la négation de toute conscience adjugée. La conscience n'est pas adjugée par une avant-garde qui, de manière pédagogique ou professorale, va enseigner. Quand nous faisons un tract, quand nous faisons une conférence, quand nous faisons une réunion, quand nous rencontrons des gens, nous ne leur faisons pas la leçon. Nous faisons transmission d'une connaissance historique par laquelle, depuis des siècles, des hommes de tout horizon ont appris qu'on ne pouvait pas se soumettre à notre provenance servile. L'homme émancipé est l'homme de sa destination. Il n'est pas de sa provenance. L'un des textes les plus importants de Marx, c'est la question juive. C'est le refus de l'enfermement dans une Torah de servitude, dans un islam de soumission, dans une église de génuflexion, dans un capitalisme d'exploitation. Qu'est-ce que l'homme émancipé ? C'est l'homme qui saisit la Gemeinwesen de l'universalité. Je saisis l'universalité de mon désir, l'universalité de ma passion, l'universalité de ma conscience. Je suis pas juif, je suis pas musulman, je suis pas taoïste, je suis pas blanc, je suis pas noir. Ça, c'est les enfermements à partir desquels les classes dominantes n'ont pas cessé de vouloir nous enfermer depuis des siècles et des siècles dans des estampillages de servitude et de mort lente. Tout individu, à partir du moment où il saisit le rapport de la lutte des classes, à partir du moment où il saisit le rapport de la logique de l'histoire, peut choisir sa destination. Il choisit sa destination. Il décide d'être dans une dynamique historique d'abolition de l'argent, d'abolition de l'État, d'abolition du mensonge, d'abolition des mystifications. L'universel, c'est que je suis enfin en relation d'amour avec la totalité des hommes. Je suis pas simplement en relation d'amour avec ma communauté aliénatoire. Je suis pas en relation d'amour dans ma Torah d'exclusivité ou dans mon Coran d'enfermement. Je suis en relation d'amour avec l'universel et je détruis tous les Corans et toutes les Torahs parce que je prône l'amour universel. Et si je prône l'amour universel, je fais péter tous les murs de Berlin. Qu'ils soient religieux, politiques, sociaux, économiques, à bas les murs, à bas les barbelés, à bas les aliénations. Et c'est pour ça que, à partir de là, je positionne le grand renversement qui fait si peur à la classe capitaliste. Parce que pourquoi pendant des décennies, on a menti aux immigrés sur la colonisation? Pourquoi on a menti aux immigrés sur la décolonisation? Pourquoi on a menti aux Français traditionnels sur la colonisation et la décolonisation? La colonisation, c'est le capital. La colonisation, c'est l'aliénation. Les gens du Maghreb, ils ont d'abord été colonisés par l'islam au 7e siècle. Les populations africaines, elles ont d'abord été colonisées et écrasées par les colons arabo-musulmans. Les Gaulois, ils ont été esclavagisés par des Romains. Il n'y a pas de couleur de peau dans l'esclavage. Il n'y a pas de couleur de peau dans l'aliénation. Et les premiers esclaves aux Amériques étaient des colons esclavagisés par Cromwell, c'était des déportés irlandais. On a voulu ethniser le rapport social. Pourquoi on a voulu ethniser le rapport social ? Pour que le rapport social, dans sa dimension subversive, ne puisse pas exploser. Il fallait une armée de réserve qui soit cantonnée culturellement dans une temporalité qui ne la mettait pas en relation avec le projet communiste. Donc, l'éducation nationale du capital, les structures étatiques du capital, les structures financières du capital ont parqué dans les banlieues, après en avoir expulsé le prolétariat, les immigrés. Et en structurant dans une dialectique du spectacle du secret généralisé, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une construction complotiste, c'est une conjuration immanente. Le capital veut la guerre sociale ethnique. Le capital veut le chaos généralisé contre-révolutionnaire. Et pour qu'il y ait le chaos généralisé contre-révolutionnaire, il faut que l'immigré abruti dans son quartier et que le français de souche dans son autre quartier soit en incapacité de se parler et de se comprendre, en comprenant que la grande déportation qui fait monter des gens du sud vers le nord, c'est un enjeu capitaliste de lutte de classe. Donc, à un moment donné, quand la crise généralisée va nous exploser à la figure, quelle est la grande peur du capital ? C'est que justement, ces compartimentages, ces apartheids, quartiers immigrés, quartiers de souche, puissent construire des parcelles critiques. Donc, pour éviter la guerre civile de classe, la guerre civile révolutionnaire, le capital a depuis des années et des années investi, non pas par complotisme, mais dans la conjuration immanente de la stratégie du capital, sur le vecteur stratégique de la guerre sociale ethnique. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Dans le chaos généralisé par lequel le capital est en train de se détruire industriellement, commercialement, bancairement, le capital n'a qu'un moyen pour empêcher la guerre sociale de classe, c'est la guerre sociale ethnique. Les banlieues n'ont pas bougé au moment de la crise des Gilets jaunes, parce que les banlieues, dans la servilité du salariat classique et dans l'économie parallèle du trafic racailleux, sont totalement inféodées à l'appareil d'État des racailles du haut. Les racailles du haut ont fait des racailles du bas et des banlieues un enclos contre-révolutionnaire. L'abolition du salariat, ça ne passe pas dans la linguistique du truc. Ça ne passe pas. Vous voyez le film Les Misérables, qui a été encensé. Vous écoutez le langage. Orwell nous dit le capital, pour contrôler la population, doit appauvrir le langage. Il faut constamment appauvrir le langage. C'est la novlangue. Je le redis toujours, je le redirai encore, je le redirai toujours et encore. Allez sur l'INA. Regardez les vidéos INA sur les banlieues dans les années 60. Le langage, la syntaxe, la richesse. Comment parlaient les ouvriers de banlieue dans les années 60? Et vous regardez le film Les Misérables ou vous regardez un reportage sur la banlieue. La pauvreté langagière, la syntaxe, la richesse des mots, l'épuisement, la pauvreté. Comment voulez-vous faire comprendre la critique radicale à des gens dont le langage a coupé toute relation à l'histoire critique? Donc, le grand enjeu des années qui viennent, c'est est-ce qu'il va y avoir, oui ou non, des possibilités de passerelles radicales entre la lutte de classe et ses enclos contre-révolutionnaires? Et ça fait partie de tout le débat que Marx a posé par rapport à juin 48, par rapport à la fraternisation, par rapport à la lutte des classes.
Est-ce que quelqu'un a encore une question pour à propos de la grève ou de l'armée de réserve immigrée ? Il y a des questions qui ne sont pas relatives à ces sujets-là, on les posera éventuellement à la fin. Ok. Pour le moment, je n'ai pas vu d'autres questions.
Ben. Alors, ben, peut-être le sujet suivant, ou bien non, Héloïse ?
Non, j'allais, vas-y.
Ben, alors, le sujet suivant, ce serait, on va dire ça, peut-être un peu sans transition, quoique, on reste toujours en fait au trafic et au secret généralisé. Donc, il y a l'affaire Maznev, qui a éclaté en début d'année. Et donc l'affaire Matzneff qui porte sur justement, c'est une personne qui l'accuse d'avoir abusé d'elle il y a quelques décennies. Et la question c'est, est-ce que cette affaire arrive par hasard en fait, au niveau médiatique? Est-ce que c'est peut-être pas une façon d'étouffer tout ce qui est de réseau de trafic d'enfants et tout ce qui est en souterrain, tous les souterrains d'État? Parce qu'elle arrive aussi à un moment où il y a eu l'affaire Epstein, enfin, ça fait déjà 6 mois, et ça arrive où on se focalise sur un individu, c'est un loup solitaire, on va dire. Ça permet de rager et de cacher tout ce qui est réseau organisé.
Votre question est intéressante parce que ça me fait penser. Hegel disait dans la science de la logique, le hasard est toujours le refuge de ceux qui ne perçoivent pas la nécessité. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe que pour ceux qui ne savent pas qu'il y a une nécessité logique et qu'il y a un déterminisme irréfragable. Alors effectivement, on a eu l'affaire Matzneff. Maintenant, on a l'affaire Sarah Abitbol, et à partir de là, alors on est en plein dans le livre 1 du Capital sur le fétichisme de la marchandise et son secret, ce qui sera la phrase terminale de notre entretien, et sur le secret généralisé de Debord. Le faux en domination formelle, c'est-à-dire avant la guerre de 14, le Capital surdétermine un mode de production qui est encore en relation très forte avec ses antériorités. Le capital n'est pas devenu le mode de production pur de la démocratie achevée du capital, et donc de la marchandise totalitaire réalisée. Il y a donc un faux capitaliste qui surdétermine le vrai, mais il ne l'a pas totalement avalé. À partir du moment où la marchandise devient la réalité totale du monde, le vrai n'est plus qu'une métastase du faux dans la loi de fétichisation universelle de tous les territoires, d'une telle manière que ce que les hommes regardent, ils ne le voient plus. Vous avez une très bonne illustration de ça dans Hommage à la Catalogne, lorsque Orwell raconte la manière dont les journaux narrent l'expérience insurrectionnelle de l'attaque du central téléphonique de Barcelone en juin 1937. C'est-à-dire que la réalité de l'attaque du central téléphonique à Barcelone en juin 1937 par les staliniens et par la gauche du capital pour écraser les barricadiers, c'est-à-dire que tous les types qui, à la base du POUM et à la base de la CNT, n'écoutaient plus leur bureaucratie et envoyaient chier les ministres de la CNT, ces gens-là se font écraser par la gauche du capital et avec la complicité des ministres de la CNT. Et on va les présenter comme des alliés objectifs de Franco. On va dire c'est la cinquième colonne de Franco. De la même manière que quand Trotsky a massacré les communards de Kronstadt, pour justifier le massacre des communards de Kronstadt, on a présenté les marins de Kronstadt comme des gardes blancs. Exactement comme aujourd'hui, Marx qui a produit la question juive, ou Marx qui a été le premier théoricien du grand remplacement par le surgissement de la main-d'œuvre immigrée, pourrait être taxé de rouge-brun. C'est-à-dire que le capital, dans sa fétichisation spatiale, dans sa fétichisation linguistique, réorganise la totalité des rapports, et chaque fois qu'il montre quelque chose, c'est pour cacher autre chose. Alors, effectivement, Matzneff, Sarah Abitbol, ça existe. Nous sommes dans la sexualité achevée de la domination réelle, terminale du capital. L'amour qui constitue la sève de vie, la sève d'orgasme de l'homme naturel, a été invalidé et totalement englouti par le capital. Rappelons-nous toujours que le communisme, c'est le naturalisme achevé dans l'orgasme accompli de l'homme en l'amour véritable, et que le capital, c'est l'inverse. Donc, le capital, en domination formelle, n'a pas pu imposer une sexualité adéquate à sa temporalité réalisée. On avait une sexualité mixte. On pouvait pas imposer en domination formelle la GPA, la PMA et le LGBTisme. toute cette sauce sociétale de décomposition naturaliste en décomposition sexuelle, ça présupposait l'échec de la grève sauvage de 68, le triomphe du gauchisme de la marchandise et l'émergence narcissique de l'impérialisme, de la marchandisation des humains. Donc, aujourd'hui, grâce à l'affaire Abitbol et à l'affaire Matzneff, on essaye de nous faire croire qu'il y a de la pédophilie partout. Alors certes, il y a de la pédophilie partout, mais cette pédophilie qui a lieu et qui est partout, elle n'a pas gêné beaucoup le pouvoir et les médias au moment de l'affaire du Corral. Quand la gauche du capital a pris le pouvoir dans les années 80 et que tous les méandres de sa structuration de gauche culturelle prônaient dans des pétitions dans le journal Libération l'amour des continents infinis de l'enfance. C'est parce qu'il y a eu une réaction humaine profonde de dégoût que le capital a dû faire marche arrière. Donc le capital, il est pour la pédophilie généralisée, le capital, il est pour l'euthanasie généralisée, le capital, il est pour le LGBTisme généralisé, mais il peut pas avancer tel un bulldozer sur tous les territoires en même temps. Il doit prendre en compte les retards culturels de populations qui ont encore en eux un rapport de naturalité à eux-mêmes. Et donc, il avance, mais parfois il recule. Toute l'intelligentsia gauchiste prônait la pédophilie généralisée dans les années 80, elle a dû faire marche arrière. Alors, elle a fait marche arrière, dans la publicité et la réclame extérieure, dans les réclames officielles, mais bien évidemment, toutes ces pratiques qui sont liées au développement du capital. Et je renvoie toujours mes auditeurs à la lecture attentive, méthodologique et radicale de Sade. Il n'y a pas de sexualité neutre. Nous avons la sexualité de notre rapport social. Quand nous sommes dans une communauté communiste où l'amour existe, où la relation de tendresse existe, où la vibration des corps a du sens, nous avons une relation amoureuse vraie et fertile. Mais comment voulez-vous que dans le développement capitalistique qui a colonisé l'homme dans une prostitution universelle, l'homme n'est plus qu'un tas de boue capitaliste, il est donc en train de devenir un tas de boue sexuel. Le capital a tout colonisé. Le capital est la totalité du monde. Donc il est normal que le capital construise une sexualité anti-humaine, robotique, machinique, narcissique, totalement pathologique. Et pourquoi je renvoie à Sade ? Je renvoie à Sade parce que si vous lisez les 120 journées de Sodome, vous avez dans les 120 journées de Sodome toute la sexualité machinique du capital qui aujourd'hui se réalise sous des formes avouées ou sous des formes cachées, mais elle est consubstantielle. À l'époque de la gauche du capital rayonnante, Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, personne n'a fait interdire la vilaine Lulu. Vous pouvez aller sur Amazon, regarder ce qu'est la vilaine Lulu. La vilaine Lulu, c'est pas simplement Abitbol ou Matzneff, c'est-à-dire des gens qui sont dans la pédophilie artisanale. Parce que c'est là où on en vient à la, c'est là où on en vient à l'essence de ce qu'est le capital voile. Il y a une pédophilie artisanale et il y a une pédophilie industrielle. Dans tous les lieux pathologiques du narcissisme. Là où la structuration capitaliste est la plus intensive, se développe une sexualité machinique qui n'est plus liée à la tendresse, à la beauté du corps, à l'érotisme, à la volupté, à l'essentialité, à l'esthétisme, mais à une pathologie sexuelle d'appropriation. Qu'est-ce que le capital ? Le capital, dans son développement, c'est la généralisation de la pathologie acquisitive, du diktat de l'appropriation. Dans la communauté communiste, qu'est-ce qu'un corps qui rencontre un autre corps ? C'est une vibration d'éternité, c'est une lumière qui fait dialogue avec le cosmos. Et c'est anti-appropriation. Quand je dis à l'autre « je t'aime », c'est une anti-appropriation dans une relation de surgissement érotique qui abolit la propriété et l'aliénation, Et dans le communisme de demain, naturalisme achevé, la Gemeinwesen, nos relations d'amour seront épanouissement, en tendresse et en conscience, d'anti-appropriation. Par contre, le capital ne peut imaginer de sexualité qu'appropriative, pathologique. Et donc, à partir de là, toute la sexualité contemporaine est angoisse appropriative, narcissique et mécanique. Et tous les lieux où le fétichisme de la marchandise est le plus en situation de crétinerie arrogante, la mode, le journalisme, tous les lieux du langage aliénatoire, sont des lieux où se développent des pédophilies de plus en plus tolérées, très souvent individuelles, puis artisanales. Mais derrière, dans les grandes nomenclaturas étatiques, on a quelque chose de supérieur, et le supérieur, c'est la pédophilie industrielle. Avec les réseaux Epstein qui étaient avec des succursales en France, avec toute une série de réseaux dont on n'entend pas parler. Donc on nous parle beaucoup de Matzneff, qui est bien vieux, on nous parle beaucoup d'Abitbol, qui est une histoire relativement très ancienne, mais on est complètement silencieux sur les réseaux Epstein dans leur succursale française. Comme on était totalement silencieux sur les réseaux Pierre Berger, Saint-Laurent, au moment de la vilaine Lulu, quand le pasteur Doucet a été assassiné en France parce qu'il voulait justement mettre en perspective les réseaux pédophiles. En France, on a assassiné Robert Boulin parce qu'il mettait en perspective des réseaux financiers gravissimes. Il a été assassiné. On a assassiné le pasteur Doucet. Et puis après, on a eu les affaires Émile Louis, on a eu l'affaire Dutroux, on a eu plein d'affaires. Le gendarme Lambert, il s'est suicidé de deux coups de carabine. Donc, il y a la pédophilie dont on parle, et qui généralement est une pédophilie qui prend soin, quand on en parle, de ne pas parler de l'autre, parce qu'il y a effectivement une pédophilie qui est abominable quand on viole des enfants de 12 à 14 ans, mais il y a une pédophilie industrielle derrière où on viole des nourrissons. Donc toute cette pédophilie-là, elle n'est pas un raté de l'ordre social. Elle est la substance immanente du fétichisme de la marchandise tel que c'est décrit par Sade dans les 120 journées de Sodome. C'est pas le paysan de l'Ardèche ou l'ouvrier de Montbéliard qui va avoir l'envie délirante de pédophilie massacrante, où on découpe des gens à la tronçonneuse, où on a des rapports sexuels en étranglant les gens. Ça, on a ça chez Sade. Mais c'est quoi Sade ? Sade, c'est la philosophie des lumières marchandes. C'est l'apologie de la démocratie du capital. C'est, en 1790, le projet mis en recherche de laboratoire de toutes les sexualités pathologiques, de toutes les nomenclaturas bancaires, politiques, industrielles et journalistiques de haut niveau. Et l'affaire Matzneff et l'affaire Abitbol, c'est ce que dit Debord dans les commentaires sur la société du spectacle, c'est l'écran. On nous donne à voir ceci pour que nous ne regardions pas cela. Il y avait une émission sur la pédophilie il y a très très longtemps sur FR3 avec Lucé, qui allait très très loin. Lucé, elle a été mise plus ou moins dans un tiroir, elle parle plus du tout du sujet, et les enquêtes qui auraient pu surgir, elles n'ont jamais surgi. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le capital est thanatique par essence. Nous en reparlerons dans nos émissions théoriques sur la baisse du taux de profit et sur la crise. Il y a une opposition constante entre travail mort et travail vivant. Mais la mort est partout dans le capital. La mort est partout dans l'esthétisme, l'art de merde contemporain, qui se termine en plug et en étron sur la place Vendôme. C'est pas un hasard. Le capital est thanatique. Le capital est excrément. La démocratie du capital est excrémentielle. Elle est thanatique. La sexualité du capital est thanatique. Vous avez des gens qui, à partir d'un certain niveau de pouvoir, sont incapables d'une émotion de tendresse, d'une caresse, d'une véritable relation érotique. Pour que l'impuissant, parce que qu'est-ce qu'un homme politique de haut pouvoir ? Un homme politique de haut pouvoir, c'est un impuissant. Plus je monte dans l'appareil d'État, nous dit Marx, quand je lis bien les manuscrits de 44 sur l'émotion, sur l'essence, sur l'appropriation, plus je monte dans l'appareil d'État, plus j'ai des responsabilités de niveau international, de niveau impérial, de niveau de pouvoir infini, plus j'autonomise mon corps, plus j'autonomise ma vie. Et je l'autonomise de tout ce qui crée la naturalité achevée de mon émotion et de ma sensation. Donc, quoi de plus normal que sur des îles, dans des endroits bien clos, on organise des sexualités violentes, des sexualités de mort, pour des gens qui, devenus impuissants dans le rapport social au monde, n'ont même plus d'émotion pour simplement un corps transparent posé là. Il faut de la souffrance, il faut de la torture, il faut du spectacle, et c'est tout ça qu'on a dans Sade. Si vous lisez les 120 journées de Sodome de Sade, vous lisez la sexualité thanatique du cœur de l'état profond et du cœur de l'état invisible. Donc aujourd'hui, à travers toutes ces enquêtes qui partent de Matzneff, pour arriver à Bitbol, on épargne les vrais réseaux dont on ne parle pas et qui constituent le thanatisme de la démocratie réalisée du capital de mort, parce que le capital est anti-amour. Et on en revient à Empédocle, quand il n'y a plus du tout d'Eros, et quand Eros est incapable de se produire, il se transmute en Thanatos. Le sadomasochisme, c'est capitaliste. Il n'y a pas de sadomasochisme chez les chasseurs-cueilleurs. Les clubs sadomasochistes qui font aujourd'hui fructification infinie dans les méandres privilégiés de la représentation spectaculaire du capital, ça concerne absolument pas l'ouvrier de Cléon ou le paysan de la Creuse. J'ai vu à plusieurs reprises sur différentes émissions toute une série de clowns féministes venir, j'ai même pas gardé les noms, venir nous dire « mais la pédophilie, c'est partout, le harcèlement sexuel, c'est partout ». Mais c'est pas vrai. Il y a une tendance à vouloir la généraliser, mais il y a des lignes de classe dans la pédophilie. Il y a des lignes de classe dans le harcèlement sexuel. Quand on rencontrait la substance réelle des gilets jaunes sur les ronds-points. Alors bien évidemment, toutes les pollutions d'Internet rentrent même dans la maison des gilets jaunes. Donc il est fort possible que des gilets jaunes à la périphérie soient happés par le sadomasochisme, etc. Mais le substrat érotique des gens sur les ronds-points, où se sont construits des histoires d'amour, c'était encore quelque chose, même si on est aliéné par la modernité, qui parlait du naturalisme achevé de la véritable relation d'amour. Maintenant, si vous montez dans les grands cénacres journalistiques, bancaires et politiques, la coque, la frime, le jeu sexuel, la dialectique de l'appropriation, l'émotion, là, elle est très rare. Et plus vous montez dans les arcanes du pouvoir profond, plus le thanatisme est intense.